Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, nous allons traiter des assises, nous allons faire un retour sur cet événement. Donc pour discuter des assises, nous allons retrouver encore une fois les deux Nico de Nos Limites Sécu. Donc Nico.
Bonjour.
Et Nico. Et
salut. Salut.
Eric, aujourd'hui également.
Bonjour.
Patrick.
Bonjour.
Et moi-même. Donc, les assises. Alors, en préambule, on peut peut-être poser la question de ce qui différencie cet événement des autres événements dédiés à la cybersécurité. Donc, Nicolas, par exemple.
Bah, pour moi, c'est clairement le positionnement, le public qui vient, qui est très différent des conférences type Hacking Paris et autres. Aux assises de la sécurité, tu as du DSI, du RSSI. Et clairement, le positionnement, c'est très orienté. T'achètes, tu dépenses des millions dans des produits de sécurité chaque année et tu vas sur un salon voir d'autres vendeurs de produits de sécurité, les faire du networking.
D'autres choses peut-être ?
Ouais, alors moi, ce que j'aime bien dans cet événement, c'est qu'il y a trois aspects assez sympas. C'est que bon, déjà, il y a des ateliers dont certains sont pas mal. Je dis bien certains parce qu'il y en a quand même qui sont commerciaux. Hein. Le deuxième point, c'est que tu vois d'un coup tous les éditeurs. Donc, il y avait à peu près 120 exposants, donc 120 constructeurs, éditeurs, intégrateurs. Donc, ça permet de gagner du temps plutôt que les rencontrer un par un sur Paris. Je pense qu'ils sont assez polants en général, ces gens-là. Et le troisième avantage, c'est que tu vois aussi tes pairs, tes copains, tes amis, ceux que tu vois pas forcément tous les jours, parce qu'ils sont pas tous à Paris aussi. Et tout ça dans un cadre assez agréable. Donc, de ce côté-là, c'est quand même assez profitable. Donc voilà ce que j'aime bien, et puis on parlera des nouveautés un peu plus tard.
Quand tu dis que tous les vendeurs sont là, non, tu as une sélection de vendeurs, mais la sélection, je dirais pas qu'elle se fait par l'argent, mais tu as quand même plein de petites boîtes, de petites PME qui font de l'audit qui ne peuvent pas venir à cause du prix. Et après, elle se fait par l'intérêt, puisque tous les gros maintenant, ils ont leur propre conférence. VMware, ils ont VMworld, Microsoft, ils ont les Tech Days, etc.
Alors effectivement, la sélection par le prix du stand, elle est claire. Hein. Et y a, les petits cabinets de consultants n'ont pas de stand, les petits éditeurs français n'en ont pas non plus. Ça c'est sûr. Maintenant, les éditeurs ont compris, à part les plus grands que tu as cités, ils ont compris que c'était un événement incontournable et que s'ils n'étaient pas présents aux assises, les gens se demanderaient pourquoi. D'ailleurs, justement, tu vois, on se pose des questions nous-mêmes, on se demande pourquoi ils sont pas là. Est-ce qu'ils ont des problèmes financiers ? Est-ce qu'ils vont se faire racheter ? Tout ça, c'est assez rigolo. C'est un petit microcosme, finalement. Mais bon, 120 éditeurs, ça fait quand même une bonne partie du marché, finalement.
Mmh. Oui, c'est clair. Et ça reste, comme tu dis, un incontournable.
Alors, c'est totalement incontournable. Si tu veux savoir ce qui se passe, t'as pas d'intérêt technique. Parce qu'effectivement, il y a quelques ateliers qui sont bons, mais il faut les repérer. Et comme les inscriptions aux ateliers se font très longtemps à l'avance et que souvent les bons ateliers sont déjà complets quand tu arrives sur le site pour t'inscrire, finalement, moi, j'ai pas vu trop de conférences où les gens parlaient vraiment bits and bytes. Ouais.
Alors, justement, là, c'est une bonne transition vers qu'est-ce qui vous a intéressé pendant ces 3 jours ?
Bah, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est toutes les keynotes. Et il y en a eu une le matin, une le soir, chaque jour. Et là, des fois, c'est complètement nul, mais c'est quand même intéressant quand c'est nul. Quelqu'un qui vient faire une keynote et qui se plante, tu te dis, waouh, quelle est sa crédibilité en cybersécurité, quoi.
Et je vois à qui tu fais allusion. Bon, on va pas troller à ce point-là, mais effectivement, il y a des trucs qui étaient un peu nuls. Ou d'autres qui ont rien de novateur, mais qui sont une bonne synthèse aussi. Ça, c'est pas mal, notamment pour les RSSI qui arrivent sur le marché. Ça doit être très intéressant pour eux.
Ouais, mais les keynotes sont quand même préparées, elles sont pitchées, le gars a fait des répétitions avant. C'est quand même un bon spectacle, quoi. Tu as l'information, tu t'ennuies pas.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Bon, moi, ce que j'ai noté d'intéressant, mais c'était par mon regard, peut-être mon intérêt professionnel, c'est beaucoup de produits et de talks et d'échanges sur l'analyse des données, qui est quand même une tendance claire dans le monde de la sécurité. Tout le monde a des données, mais j'ai l'impression que tout le monde est en train de se chercher sur cette question de l'analyse des données. Et puis, on sent que c'est surtout des produits et des solutions qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. sais pas si quelqu'un a vu quelque chose d'européen ou de français sur ces sujets-là. Donc j'aurais aimé en voir plus. Et puis est-ce que vous pensez que c'est un vrai besoin aujourd'hui, cette question de l'analyse des données pour faire de la sécu?
Clairement, quand tu parles d'analyse de données, tu parles de big data, c'est ça?
Bah, tu peux faire du big data, mais c'est surtout traiter les données que tu collectes, les filtrer, puis ensuite les analyser.
Bah, c'est-à-dire que bon, le big data, ça c'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Par contre, les petites nouveautés de cette année, c'était peut-être les objets connectés et justement la quantité de données que ça génère et qui sont envoyées d'ailleurs en général dans ce qu'on appelle le big data, hein, donc des grosses bases de données. Effectivement, tous les objets connectés que portent les gens, bon bah voilà, tous les jours, ça crache une certaine quantité de données. Et je pense qu'effectivement, les gens qui sont capables d'analyser ça peuvent en sortir des profils clients ou des profils marketing ou même des profils de santé, hein. Assez intéressant effectivement. Donc bon, on est un petit peu au-delà du domaine de la sécurité, mais maintenant c'est aussi de la protection des données personnelles finalement, hein. C'est ce côté-là qu'il faut examiner.
Bah, clairement, de ce point de vue-là, la keynote de Bull était intéressante puisque en gros c'était une, je crois que le titre c'était Big Data appliqué à la sécurité. Donc c'est vraiment en plein dans le sujet. Et pendant une demi-heure, le gars nous a expliqué qu'il travaillait des agences marketing sur optimiser le placement publicité en ligne. Sur le calcul des prix en temps réel, sur les produits dans les magasins, etc. Et il conclut en disant « Toutes les technos sont prêtes, on sait faire, on a les logiciels, on a les serveurs, etc. Si un jour, vous connaissez quelqu'un qui veut faire la même chose avec des données de sécurité, n'hésitez pas à nous appeler. » Et ça corrobore un peu ce que je te disais en introduction, c'est que voilà, dans le marketing ou dans plein d'autres domaines, ils font déjà du big data. Et qu'en sécurité, bah, les gens se demandent... Enfin, ils n'ont pas les moyens pour le faire, mais ils commencent à se demander si ça pourrait avoir un intérêt, quoi. Après, financièrement, effectivement, construire des data centers de disques durs juste pour stocker tes logs, tu as du mal à le vendre à ta direction, en général. C'est bien dommage, d'ailleurs, hein, mais bon.
Donc, quelles sont les autres conférences ou ateliers qui vous ont marqué?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Eric. On a eu droit à une keynote sur l'équipe France, les produits français qui gagnent à l'export, etc., la fédération des acteurs, la cybersécurité française et autres. Et après, quand on va dans le salon, il y a 90% des éditeurs qui sont américains, enfin, qui sont non français, en tout cas. Et effectivement, il y a un petit carré ExaTrust au milieu avec les boîtes françaises, mais je veux dire, ça tenait dans un carré, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Eric?
Ouais, non, il y a quand même quelques boîtes françaises qui étaient bien présentes et... D'ailleurs, qui n'ont pas forcément envie de faire énormément de pubs, mais qui ont envie de rencontrer du monde sur la conférence. J'ai aussi noté ça, c'est une façon un petit peu différente par rapport à d'autres salons. Tu parles pas forcément de tous tes produits publiquement, mais tu prends le temps de détailler avec les gens que tu rencontres. Donc là, pour ça, c'était intéressant. J'ai eu quelques discussions sur des produits qui ont rien de confidentiel, hein, c'est pas le sujet, mais qui étaient intéressants à discuter en tête-à-tête et qui ont effectivement pas fait l'objet de présentation. Donc il y a un mode plus offline des échanges qui est pas inintéressant. Mais effectivement, il n'y a pas énormément de boîtes françaises qui peuvent être présentes là-dessus. Mais il y en a quand même.
Est-ce que vous avez vu des choses, ou même des produits, est-ce que vous avez vu des choses innovantes, intéressantes
Alors, qui veut commencer?
Bah, moi, j'ai rien vu d'innovant. Bon, après, j'ai pas fait les 120 stands non plus. Par contre, il y a quelques stands où j'ai eu des bonnes surprises et où les gens vendaient toujours la même chose, mais ils avaient un peu plus de maturité, quoi. Disons que c'est plus les gars qui te vendent de l'antivirus en disant on arrête 100% des virus connus, quoi. Ils ont changé de siècle. Et maintenant, ils t'expliquent un peu plus, voilà, c'est quoi les limites, qu'est-ce qu'ils font derrière, comment ils gèrent la threat intelligence et autres. Donc, il y a une certaine, quand même, enfin, chez les éditeurs sérieux, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine... maturité du discours. C'est pas le cas de tous les vendeurs. Il y en a encore qui t'envoient des blondes à gros seins sur leur stand, qui te donnent des stylos comme goodies et qui disent que leur produit est meilleur. Mais...
Purée, j'aurais vraiment dû y aller.
Patrick, toi, tu as vu des choses intéressantes, innovantes?
Alors, rien de vraiment révolutionnaire. Bon, enfin, révolutionnaire, on disait qu'il y a quelques années, le DLP voilà, était un nouveau produit, hein. Ça n'a jamais super bien percé. Bon, enfin, cette année, rien de vraiment nouveau à ce style, de ce style-là. Plus de maturité des éditeurs. Un petit peu comme disait Nico, il raconte peut-être un petit peu moins de bullshit. Ils savent que les gens en face d'eux ont également gagné en maturité. Ils ont compris aussi que leur produit était faillible. Ils en ont eu des preuves hein, ces dernières années. Donc maintenant, quand ils parlent d'APT, ils font un petit peu plus attention. Ils savent que ça arrive, ils savent que leur produit n'est pas un rempart à 100%. Mmh. Et ils sortent des produits peut-être un petit peu plus intelligents également. Donc voilà, des détecteurs d'APT ou c'est des solutions qui vont analyser dans une VM les malwares qui passent en pièces attachées dans les mails, qui vont essayer de trouver si c'est un comportement normal ou pas que ce truc a, et puis en tirer un profil qui effectivement, si ça ressemble à un malware, bah, va être bloqué, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc bon, c'est un peu la guéguerre entre l'attaquant et le défenseur, parce que maintenant, on s'aperçoit que les gens développent aussi des malwares qui essayent de détecter s'ils sont pas justement dans une VM d'analyse. Mmh. S'ils le détectent, bah, ils vont rien faire un comportement normal. Et s'ils pensent qu'ils sont sur un poste de travail légitime, là, ils vont effectivement déclencher leur charge utile, quoi. Mmh. Voilà, ça, c'est les petites nouveautés que j'ai trouvées. C'est pas mal, effectivement.
D'accord. Eric ?
Rien de vraiment marquant côté produit qui a retenu mon attention. On parlait pas mal crypto aussi dans les années. C'était intéressant.
Ouais, on parlait pas mal de chiffrement dans le cloud. Donc le cloud, bon, alors évidemment, ça fait aussi, disons, 2-3 ans qu'on en parle beaucoup aux assises. Donc là, les gens ont compris qu'il fallait chiffrer leurs données dans le cloud. Et donc, il y a des solutions, effectivement, qui font ça, qui font de la gestion de clés, des choses comme ça. Ça avait l'air intéressant. Bon, maintenant, faut tester un peu.
Bon, et quid de la keynote de Guillaume Poupard ?
Il avait choisi un titre qui était volontairement très accrocheur, mais osé dire oui, en référence au discours de son prédécesseur qui avait osé dire non. En pratique, c'était assez décevant, parce que c'était osé dire oui à la cyberdéfense. Okay. Personne n'a envie de se faire pirater. Hein. On dit tous oui à une super protection, une super sécurité. Et sinon, je trouve qu'il a sorti un discours, ma foi, très optimiste, courageux, enthousiaste, etc., mais assez loin de la réalité, quoi. Et il a beaucoup insisté justement sur les produits français, sur l'importance d'avoir un écosystème, de fédérer les acteurs, d'acheter français avec ce fameux guide d'optimisation des procédures de marché public pour pouvoir acheter français en toute légalité. Mais je te dis, quand tu regardes dans les allées où il y a 90% de produits américains et où les Français n'arrivent pas à exporter et sont totalement inconnus à l'international et leur seule stratégie c'est de se faire racheter, je trouvais ça un petit peu...
Bon. Ouais, moi j'ai vu ça un peu plus positivement. J'ai trouvé en fait qu'il se posait un peu comme une sorte d'aide pour les OIV et pas que les OIV. Mais en fait, j'ai compris, ou interprété plutôt, qu'il pouvait se positionner un peu comme une grosse société de services qui serait capable de mettre le doigt parfois là où ça fait mal, mais dans le but d'aider à avoir des environnements plus sécurisés.
Oui, mais ça, c'est la théorie. Est-ce qu'après, tu as discuté avec les OIV dans les couloirs du salon ? Parce que quand ils voient débarquer l'ANSI, qui leur dit... On va faire une estimation de votre périmètre critique et ils estiment que la cantine c'est critique parce que si tu peux pas aller manger, tu viens pas bosser. Et donc le système de cantine doit être sécurisé, confidentiel défense, etc. Enfin, diffusion restreinte, je sais plus quoi. Je veux dire, les mecs, ils hallucinent.
Mais ça, est-ce que tu penses pas que c'est plus le problème d'une personne
L'ANSI, ils sont dans une phase de labellisation, guidification. Donc ils sortent des labels et des guides tous les jours maintenant. Et honnêtement, on pourrait discuter des labels, mais je pense qu'il faudrait une émission complète pour ça. Mais au niveau des guides, ils sont pas mauvais, mais enfin, tu vois, les 40 règles de l'ANSI, tu as des trucs genre interdire avec les USB, interdire les Wi-Fi, etc. Bon, ok, j'aurais pu écrire le même il y a 10 ans, mais c'est pas totalement applicable et déclinable tel quel chez un OIV. Quoi. Et
ils ont... tu dis qu'il y en a des nouveaux tous les jours, mais en fait, il y a des mises à jour. Ça, je trouve ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi des remises en cause sur certaines préconisations. Ils s'adaptent petit à petit à la réalité dont tu parles. Donc,
moi, je dis vraiment qu'il y en a tous les jours. Ils ont fait un guide sur Active Directory, ils ont fait un guide sur TLS, ils ont fait un guide sur SSH, ils ont fait un guide sur je sais plus quoi, DNS ou DNSSEC, je sais plus, enfin, sur Internet Explorer, sur Chrome en entreprise, il y a, enfin, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a un nouveau guide de l'ANSI qui sort.
Et tu trouves que c'est pas utile?
Bon, ça enfonce un peu des portes ouvertes. Je veux dire,
ouais,
quand tu vas poser ça sur le bureau
pas mal de monde
d'un
qui a pas fait ces éléments.
Mais qu'est-ce que tu en fais d'actionnable derrière?
Je sais pas, déjà t'essayes de suivre un minimum certains conseils. Tout le monde n'a pas l'occasion justement d'aller à des conférences, tout le monde n'a pas accès à de la documentation en anglais, c'est pas facile pour tout le monde en France. Donc c'est pas mal pour d'avoir une référence en français pour te guider après.
Qui utilise ces guides? Parce que la PME, elle va pas checker le site de l'ANSI tous les jours pour voir si sa configuration d'IE est conforme. Et le grand groupe, je pense qu'il n'a pas attendu pour se faire des groupes policy dans Windows et paramétrer ses IE, etc. Et les recommandations qui sont dans le guide de l'ANSI et qu'il n'a pas pu appliquer il y a 5 ans, elles sont toujours pas applicables aujourd'hui, tu vois, genre désactiver les ActiveX et Java et autres. Quand tu vis avec du legacy d'applications d'entreprise depuis 10 ans, avec des scripts en bébé, etc. Voilà, c'est juste.
Mais ça a quand même une vertu, je pense. Et là, c'est l'enseignant qui parle. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un organisme où globalement les gens ont quand même pas trop mauvaise réputation en termes de compétences. Et quand ils sortent un guide, bah, globalement, on peut faire confiance à ce guide-là. On peut faire confiance au fait que les trucs soient à peu près sérieux quand même et qu'ils aient été étudiés, qu'ils soient à peu près à jour. Parce qu'effectivement, ça m'arrive auprès de mes étudiants, des fois je leur dis, bah voilà, regardez comment on fait pour gérer ça. Ils vont chercher des ressources sur Internet et les ressources, elles sont des fois pertinentes, des fois elles sont dépassées. Alors que là, on a un truc à un moment donné qui est censé être pas mal. Et ça, c'est plutôt rassurant, je pense, quand même, pour les utilisateurs et pour alors peut-être on peut espérer effectivement dans les grands groupes les mecs sachent faire et que ils soient très à jour et que tout ce qui est dans les guides de l'ANSI les connaissent, mais pour les gens un peu plus petits, c'est quand même pas mal, je pense. C'est une référence un peu officielle, hein, et c'est un effort louable, je pense.
Sinon, quoi d'autre sur cette conférence?
Alors moi j'ai bien aimé, c'était bon, comme il le disait lui-même, hein, Guillaume Poupard, il était en droite ligne et en continuation de Patrick Pailloux. J'ai trouvé son discours assez pratique, assez pragmatique. Donc ça, je pense que ça a rassuré d'ailleurs pas mal de RSSI dans la salle. Donc pas forcément des RSSI de petites PME comme disait Nico, mais disons que bon, dans des grosses boîtes, ça en a rassuré un petit peu. Il a insisté assez lourdement sur les OIV. Je pense qu'il aimerait d'ailleurs que ça fasse tache d'huile, je crois qu'il a utilisé cette expression, pour qu'effectivement les obligations qui s'appliquent aux OIV, les autres entreprises se les appliquent aussi un petit peu en partie, quoi. Bon, c'est pas mal. On a parlé de la LPM aussi, voilà, de la même façon, que ça puisse s'appliquer de manière assez large. C'est plutôt donc de la bonne pratique à appliquer en France. Pas forcément de manière brutale à appliquer à 100% par tout le monde, hein, effectivement, donc c'est un peu ce qu'on vient de dire juste avant là, mais que ça commence à percoler progressivement dans la société professionnelle française, donc c'est pas mal, j'aime bien.
Moi, ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant dans la keynote, c'est vraiment qu'il insistait beaucoup sur la nationalité des traitements et des données. Donc c'était, on veut des produits français, on veut des exportations françaises, mais aussi on veut des données stockées en France et traitées par des Français. Et là-dessus, enfin, j'ai toujours du mal avec ce concept, parce que si tu prends un truc comme iCloud, par exemple, il n'est pas avéré qu'il y ait eu du leak de photos sur iCloud, mais enfin, on s'est quand même fortement suspecté. La localisation géographique des serveurs ou la nationalité des gens qui traitent ça n'a aucune importance. Et même.
Sauf quand tu veux te tourner vers eux, quoi. Imagine une victime en France de ça. Elle se tourne vers quel juge?
Le nombre de victimes aux États-Unis est beaucoup plus important que le nombre de victimes en France. Vouloir tout
Parce que
mettre en
c'est elle qui
France.
était ciblée. C'était les starlets de la côte ouest. Mais si tu ciblais des victimes en France, tu aurais le même résultat.
En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt de sécurité à mettre le cloud en France, sauf que ça crée des emplois et que ça permet aux juges français d'aller taper sur les serveurs parce qu'ils sont en France, quoi.
Non, c'est plus une question de responsabilité. Ça dépend quel type de traitement aussi. Pour stocker des données sensibles, c'est clair que tu as intérêt à avoir une autre réflexion que simplement pour des données qui te servent à échanger avec le reste de la planète, qui est quand même une partie des usages du cloud. Pour stocker des données sensibles, un, tu dois avoir une maîtrise minimum de là où elle se trouve, de qui y a accès, et puis éventuellement sous quelle juridiction elle se trouve, parce que là, si une juridiction peut décider de te piquer tes secrets, c'est des secrets importants pour l'entreprise.
Si elle a décidé de te piquer tes secrets, elle le fait. Tu as vu les leaks de la NSA. Aujourd'hui, ils introduisent des agents dans toutes les boîtes de logiciels pour les packs dorés. Donc, c'est pas une question d'être français, américain ou autre chose. Hein. Je veux dire, il y a des taux de
la NSA. L'enjeu est autour de toutes ces questions-là, c'est maîtriser tes données.
Écoute, je suis quasiment sûr que tu as une taupe de la NSA chez un opérateur de cloud français. Je sais pas qui c'est, etc. Mais je veux dire, s'ils sont malins et s'ils pensent vraiment que le truc va décoller et qu'il y aura des trucs sensibles hébergés dessus, hein, je sais pas qui sont leurs clients actuellement, mais bah, ils ont déjà prévu d'avoir une taupe.
Il y a aussi des taupes françaises dans des grandes entreprises américaines.
Hein. Ah oui, non, mais l'espionnage, c'est vu comme le monde. Hein.
Je vise personne, mais...
Après, il y a quand même un enjeu de développement en France, c'est assez important, qui est au-delà du cocorico, c'est développer des activités en France qui vont nous permettre de nous développer et puis d'innover. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, on manque un petit peu de capacité de rebond, etc., de nouveaux produits. S'il y avait plus de choses qui se faisaient en France, peut-être que ça marcherait mieux.
Et donc, il y a eu cette fameuse keynote sur le transhumanisme.
Bon, juste pour commencer, cette keynote, c'était total bullshit. Hein. De toute façon, c'est par le fondateur de Doctissimo, donc tu as à peu près la même qualité d'information comme tu vois sur Doctissimo.
Tu veux dire que tu allais là-bas et tu chopais un cancer, c'est ça? Tu suis un lien, regarde, t'as le cancer.
Tu fais un cancer de l'oreille en l'écoutant. Non, mais je veux dire, il y a des faits qui sont vrais, tu vois, sur les pratiques de trépanation, enfin lobotomie, etc. Sur les recherches en cours, sur le séquençage de l'ADN et autres. Mais ensuite, il prend deux faits qui sont totalement sans lien et il en tire une conclusion qui est à des années-lumière. Tu vois, il te dit, en regardant ton profil Facebook, on peut savoir si t'es homo. Donc, Facebook a hacké ton cerveau. Ouais, bon, il y a un petit raccourci quand même. Hein. Après, je dis pas qu'il a de raison sur un certain nombre de points, c'est-à-dire qu'il y a des recherches en cours dans la médecine, même en France, hein, le CEA fait des recherches sur les nanorobots et la médecine du cerveau avec des nanorobots, ce qui a fait dire à certains qu'on allait diffuser des nanorobots dans l'air pour contrôler les émotions de la population. Je pense qu'il y a une grande différence entre la recherche, ce qui va vraiment en sortir, c'est-à-dire ce que personne n'est capable de dire aujourd'hui, ce qui va sortir de la recherche, et les fantasmes des gens où en gros, voilà, il y a des ondes, il y a des robots dans l'air, machin, on va pouvoir... Enfin, le gars, il a quand même dit dans une autre conférence, là, il n'a pas osé la refaire dans cette keynote, il a quand même dit qu'en 2040, on pourrait faire la transplantation de cerveau d'un corps dans un autre. C'est un petit peu audacieux comme prospective. Hein. Si tu regardes la vision du futur en 1900, il disait qu'on aurait tous des jetpacks et qu'on pourrait voler, etc. C'est loin d'être arrivé.
Alors, je te trouve un peu dur parce que de la part de quelqu'un qui est en train de porter un chapeau en aluminium sur la tête pour te protéger des ondes cosmiques, c'est un peu rigoureux quand même, monsieur.
Pas du tout, j'ai arrêté le chapeau, maintenant je porte des aimants supraconducteurs, comme ça me fait un champ magnétique personnel.
Tu me fileras la référence.
Ouais, son discours c'était un petit mélange, effectivement. Il partait de faits réels et il extrapolait peut-être un petit peu loin, effectivement, je suis d'accord avec Nico. Il parlait de. Enfin, moi j'en ai retenu deux grands domaines, le hack du cerveau d'un côté, et puis l'intelligence des machines de l'autre. Donc, d'un côté, il parlait du hack du cerveau. Réel, c'est-à-dire le fait de pouvoir lire ce que fait un cerveau. Et là, c'est vrai qu'avec l'imagerie médicale, on commence à le faire de mieux en mieux. Ça, c'est la lecture. Et l'écriture dans le cerveau. Alors, il parlait effectivement de la modification du fonctionnement du cerveau à l'aide de flashs lumineux. Alors, ça, c'est vrai, ça fonctionne. Bon, sur les souris, hein, pour l'instant, on arrive à modifier des souvenirs, on arrive à modifier des comportements. Donc, il part de faits réels et puis il extrapole effectivement sur la modification du comportement de l'humain. Donc là, il y a un passage à l'échelle qui est assez considérable. Il va peut-être un petit peu vite à ce niveau-là. La partie ensuite sur l'intelligence des machines, il va peut-être aussi un petit peu loin. C'est-à-dire qu'il, pour lui, on atteindra forcément, et dans pas si longtemps que ça, le moment où on fera une machine qui est aussi intelligente, aussi performante qu'un cerveau. Voilà, c'est ce qu'on appelle la singularité, effectivement. Bon, Il a l'air assez catégorique sur le sujet, c'est quand même pas gagné. Mais bon, d'après lui, il y a un moment où effectivement les machines sont suffisamment intelligentes pour être autonomes, se reproduire ensemble, etc. Et soit aider un cerveau, soit y transférer carrément le contenu d'un cerveau dans ces machines-là. D'où effectivement le clonage d'un corps à un autre, etc. Et puis évidemment, il n'a pas manqué de citer le scénario de Terminator avec la guerre des machines, qui sont suffisamment autonomes et intelligentes pour éventuellement entrer en compétition avec les humains. Voilà, donc il y avait des choses vraies, des choses peut-être un peu exagérées, il y avait du bon et du mauvais à prendre et à laisser, quoi.
En tout cas, c'est une keynote qui a marqué.
Ah bah, le gars est très très bon à l'oral, et puis il avait des slides, tu vois, il y en avait un, t'as un cerveau sanguignolant, sur l'autre t'avais une bite de 30 cm, enfin... Non mais, clairement, là pour le coup, c'est un très bon orateur.
Ouais, on voyait qu'il s'était entraîné, je crois qu'il est passé à TEDx Paris, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Donc il avait dû bien roder son truc, effectivement. Ouais.
Mais par contre, vous me rappelez un truc, les assises de la sécu, c'est un truc de sécu, c'est ça ?
Oui, mais les keynotes sont vraiment très intéressantes. L'année dernière, il y avait une keynote justement du plus gros fabricant de drapeaux français, qui est en fait une entreprise familiale du nord de la France. Et le gars expliquait qu'en gros, il n'y avait aucune sécu dans sa boîte parce qu'il faisait confiance à ses employés et que tout le monde était à la maison, etc. Et que voilà quoi. Tous les shares étaient en accès libre, tout le monde pouvait voir combien gagnait tout le monde. Donc je trouve les keynotes sont vraiment bien parce que souvent, c'est des intervenants de qualité. Je crois qu'il y avait eu le ministre de l'Éducation qui était venu, enfin un ex-ministre de l'Éducation qui était venu une année.
Ouais, Luc Ferry. Il faut savoir qu'il y a toujours l'une des keynotes qui est complètement décalée, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça. Une donc, qui est faite par quelqu'un qui ne vient pas du tout du domaine de la sécurité informatique. Donc, voilà. Il y a eu Luc Ferry, il y a eu un gestionnaire de crise, il y a eu effectivement le gars qui faisait des drapeaux. Et cette année, bah, c'était justement un médecin, biologiste, chirurgien, neurologue. Et c'était assez rigolo, effectivement.
Et toutes ces keynotes étaient super bien faites. La keynote de Luc Ferry, il a tenu une heure sans slide, sans notes, sur... la philosophie de la peur et comment la philosophie de la peur s'applique à la sécurité. Quoi.
Mmh. Ouais, c'était très chouette. Ouais.
Mais de toute façon, tout est en vidéo sur YouTube, hein, si vous voulez revoir quelques keynotes et vous faire votre propre avis.
Mais carrément.
Il y en a qu'une seule qui est hors champ. Hein. D'accord. Mais justement, Nico, en termes de sécurité, ou Patrick, l'impact de tout ça. Des ordinateurs qui deviennent de plus en plus puissants. À partir de quel moment on maîtrisera plus la sécurité, justement ? On laissera les ordinateurs gérer eux-mêmes leur sécurité ?
Jamais. Là, tu vois, typiquement, c'est encore un raccourci énorme qu'il prend. Il dit, voilà, la puissance de calcul des ordinateurs double tous les 18 mois en vertu de la loi de Moore. La puissance de calcul du cerveau humain est estimée à temps, donc l'ordinateur sera plus intelligent que l'humain à telle date. Ce qui est complètement faux, puisque l'intelligence ne se résume pas seulement à la puissance de calcul.
Ouais, c'est clair.
L'intelligence humaine, elle est liée au fait aussi que tu as des sens, que tu interagis avec un environnement, etc. Tu peux avoir un ordinateur avec une puissance de calcul démente. S'il n'a pas de parents pour l'élever, s'il n'a pas d'environnement extérieur pour le stimuler, c'est juste une machine qui calcule des logarithmes.
Ouais, c'est ce que j'avais noté aussi. Il parlait de l'humain assez isolé. Et on est plutôt dans un modèle où l'humain est relié entre avec les autres. Et justement, une des évolutions majeures des dernières années, c'est que la technique nous permet d'avoir de plus en plus d'échanges. Donc peut-être que c'est nous qui allons plus loin grâce à la technique, plutôt que la technique qui va plus loin que nous.
Complètement. Avec les sites de crowdfunding, tous les moyens de communication instantanée type Twitter et autres, aujourd'hui, on a construit une intelligence collective de l'humanité qui est incomparablement supérieure à l'intelligence d'un individu donné. Donc les machines ont encore du boulot avant de nous rattraper.
Effectivement. Bon, il considérait aussi qu'elles pouvaient être suffisamment connectées entre elles pour faire à peu près l'équivalent d'une société. Bon, c'était une hypothèse comme une autre, mais comme tu dis, son calcul était un petit peu simpliste, quoi. Mais il y avait un autre sujet intéressant, c'est que comme il considérait qu'au bout d'un moment, on pourrait lire ce que fait le cerveau, avoir tellement d'objets connectés sur nous que ces objets arriveraient effectivement à déterminer ce qu'on fait et même ce qu'on va faire, pour lui, c'est la fin de la vie privée, quoi, effectivement. Donc un autre moyen d'arriver à la fin de la vie privée. C'est assez challengeant aussi, assez dérangeant. Les gens étaient assez mal à l'aise dans la salle. Et ouais, ça c'était un truc assez intéressant.
Excuse-moi, mais si comme tout le monde, tu as galéré pour trouver du Wi-Fi, je peux dire que les objets connectés, ils sont connectés uniquement quand tu es chez toi. Hein. Il suffit que tu prennes le TGV pour aller à Marseille, il y a trois quarts du temps, tu n'as pas de réseau et c'est tout. Hein.
Ouais, t'es plus connecté, ouais. Mais bon, imagine que tes trucs enregistrent des données en local, et puis dès qu'elles sont connectées quelque part, poum, elles balancent tout. Bon, ça c'est. Il y a tout un tas d'équipements qui sont faits pour ça.
La preuve qu'on a encore une vie privée, c'est que tout ce qui se passe à Monaco reste à Monaco.
Donc pour terminer, je souhaiterais remercier les personnes qui nous ont laissé un commentaire sur iTunes, et plus particulièrement Nicolas Capronic, qui nous a même rédigé un article sur son blog. Un grand merci également à vous qui ferez parler de nous sur les réseaux sociaux. Donc merci par avance et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.